La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Elle a été classée parmi les 10 maladies les plus invalidantes selon l'OMS. La schizophrénie, une maladie psychiatrique qui se manifeste par un ensemble de symptômes très variables, dont les plus impressionnants sont les délires et les hallucinations. Mais le retrait social, les difficultés cognitives sont également les caractéristiques les plus invalidantes de cette pathologie de la personnalité. La schizophrénie concernerait en France 600 000 personnes, 1% de la population mondiale de cette maladie qui véhicule un certain nombre de clichés qui déforment la réalité. C'est pour lutter justement contre ces stéréotypes qu'une campagne a été lancée dans les médias pour sensibiliser le public. La Tête au Carré consacre son dossier dans un instant à la schizophrénie avec vos messages à nos invités dès maintenant sur franceinter.fr. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un robot aérien qui peut changer de forme en plein vol.
Oui, il s'appelle Quad Morphing et comme les oiseaux, il est capable de se replier sur lui-même pour franchir des obstacles. On part à Marseille pour discuter avec ses concepteurs dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati avec Hannibal Watchi.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, la schizophrénie, ce sera donc notre dossier dans un instant avec mes invités, les psychiatres Raphaël Gaillard et David Gourion et Fabienne Blin, la porte-parole du collectif Schizophrénie. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Raphaël Gaillard, la schizophrénie c'est une maladie avec, on va le voir, des symptômes très variables.
Alors, il y a trois grands types de symptômes, les plus connus, le délire, les hallucinations, et puis également le repli social, la perte d'initiative, et enfin un troisième type de symptôme, la désorganisation. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'étymologie du mot schizophrénie, hein, l'esprit coupé en deux, et qui caractérise cette maladie autour de ces trois types de symptômes.
David Gourion, repérer justement les premiers signes le plus tôt possible, c'est fondamental hein, autour de la schizophrénie.
Oui, c'est un enjeu majeur parce que plus on intervient tôt, plus on va permettre d'éviter que ce retrait social n'amène à une désociabilisation, une sortie, une cassure de la scolarité. Et donc les interventions précoces aujourd'hui sont vraiment gages de réinsertion et de bonne évolution. Donc c'est un enjeu capital, fondamental.
Il y a beaucoup de retard en France, on le verra avec vous tout à l'heure.
10 ans à peu près. Entre le début des premiers signes et le premier diagnostic, ce qui est problématique.
Fabienne Blin, on va parler beaucoup des familles également avec vous. Est-ce que c'est difficile parfois chez un adolescent de distinguer justement les signes de la maladie qu'on pourrait simplement, par exemple, attribuer à la crise de l'adolescence ?
C'est toute la difficulté parce qu'effectivement un certain nombre de signes sont pas extrêmement spécifiques, que ce soit l'angoisse, l'insomnie, le retrait, la démotivation, mais en même temps, rétrospectivement, quand on interroge l'entourage, on voit bien qu'il y avait quand même un certain nombre de signaux faibles qui étaient repérés par la famille, enfin les frères et sœurs, les parents notamment, et qui n'ont pas été rattachés à la maladie, et du coup, ça a retardé l'accès aux soins et au diagnostic.
Allez, on parle de tout cela ensemble dans quelques minutes pour ce dossier autour de la schizophrénie et les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Le drone français Quad Morphing qui se prend pour un oiseau est aujourd'hui à la une de la science.
Bienvenue à bord de l'Albatros. Veuillez attacher vos ceintures, détendez-vous. Et faites confiance au pilote. Lisez-moi donc la checklist.
Volet, position, décollage.
Ok.
Gouvernail.
Ok, à droite et à gauche. Et c'est parti!
Voilà, c'est parti également pour nous à la Une de la Science. Bernard et Bianca, les acrobaties du goéland Orville, pour parler donc aujourd'hui d'un drone unique au monde, mis au point par l'Institut des sciences du mouvement à Marseille. Et comme le font les oiseaux avec leurs ailes pour passer des obstacles fins, ce drone est capable de replier toute sa structure sur de courtes périodes pour franchir des passages étroits. Une prouesse technique, Axel, que nous commentons avec notre invité.
Oui Mathieu, nous partons à Marseille en direct des studios de France Bleu Provence pour retrouver Stéphane Violet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS à l'Institut des sciences du mouvement et vous coordonnez l'équipe biorobotique qui a mis au point ce drone. Alors, c'est vraiment le vol des oiseaux qui vous a inspiré en premier lieu pour construire Quad Morphing ?
Alors, c'est le vol des oiseaux. Ce sont des études menées notamment par notre collègue à Brisbane, en Australie, Mandiam Srinivasan, qui a travaillé sur des perruches. Il a entraîné des perruches à passer à travers des ouvertures. Elles se replient. Il a montré qu'elles replient leurs ailes au dernier moment pour traverser cette ouverture. Et on s'est aussi inspiré de films de la BBC qui ont montré qu'ils avaient filmé des oiseaux de proie qui volaient dans une forêt très dense. Et ils sont capables, ces oiseaux, de replier leurs ailes pour passer entre des branches ou des troncs d'arbres très resserrés.
Alors concrètement, à quoi ressemble le drone et la manœuvre qu'il est capable de réaliser alors ?
Alors le drone Quad Morphing, il s'appuie sur des drones maintenant existants, hein, qui est des structures qu'on peut voir maintenant, qui sont assez communes, qui s'appellent des quadrirotors. Il y a quatre rotors, hein, qui nous permettent donc à ce robot de voler et puis d'évoluer dans les airs. Mais ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé un nouveau mécanisme qui permet de replier ces rotors et de lui permettre donc de diminuer son envergure. On a aussi développé un nouvel autopilote pour pouvoir assurer la stabilité pendant cette phase de repliement.
Alors, ça veut dire que la manœuvre est automatique, c'est pas un pilote qui replie les bras du drone.
Alors absolument, la manœuvre est automatique. On la déclenche actuellement parce qu'on peut localiser le robot dans une arène de vol. On la déclenche, on envoie un ordre. Mais lorsque le robot est replié, son autopilote assure sa stabilité. La deuxième phase pour nous, c'est de mettre une caméra pour que le robot prenne de lui-même la décision de se replier lorsqu'il va devoir passer à travers un passage étroit. Et quand il va estimer qu'il est trop grand par rapport à ce passage, il va pouvoir se replier par lui-même et prendre la décision par lui-même.
Alors Stéphane Violet, justement, il y avait auparavant aucune équipe qui avait pu justement obtenir ce résultat. Il y avait une vraie difficulté technologique à franchir là.
Alors oui, avant il y a eu des travaux menés par des Américains ou des Suisses où là les quadrirotors, les robots aériens étaient capables de faire des mouvements très agressifs, hein, donc de se cabrer par exemple pour passer une ouverture. Donc c'était une manœuvre très agressive, très consommatrice en énergie aussi. Et on a voulu prendre le contre-pied de cette approche en disant ben peut-être qu'un drone finalement, même s'il est assez grand, il a une envergure relativement grande, il doit quand même être capable en se repliant et ben de passer ses difficultés, ses étroitures, mais quand même rester suffisamment grand. Et ça, ça a été une première mondiale parce que c'est ces échelles de robots aériens, tels qu'on a développé, il y avait eu encore rien qui avait été fait pour franchir des passages étroits. Ouais.
Alors, quelles sont justement les situations ou les usages autour des drones qui pourraient bénéficier de cette manœuvre ?
Alors l'idée donc c'est de concevoir un robot, un drone donc qui peut embarquer, qui peut être relativement gros et grand, mais qui ne va pas être handicapé par sa taille relativement grande. Il va pouvoir embarquer plus de batteries, plus d'énergie, des capteurs aussi, et évoluer dans un environnement encombré, qui peut être encombré pour plein de raisons, parce qu'il y a eu par exemple un immeuble qui s'est effondré, ou alors évoluer dans un environnement qui est très dense, comme un stock par exemple, ou explorer tout type d'environnement où il y a une grande densité, où surtout il n'y a pas de GPS. C'est aussi ça qui nous intéresse. Donc là, on a développé ce robot pour ça. Et aussi, pourquoi pas, des drones de racing aussi, ça peut être aussi intéressant pour un pilote de racing. Maintenant, le drone de racing, c'est un peu un nouveau sport mécanique pour des pilotes qui sont extrêmement agiles, de déclencher cette manœuvre où le robot va donc se replier et de manière à franchir des portes très très vite.
Oui, l'automatisme serait dans ce cas-là dans les mains du pilote et c'est lui qui franchirait comme il le veut et en coupant, j'ai envie de dire, le contrôle, c'est ça ?
Exactement, le pilote pourrait déclencher le repliement à sa demande, hein, et donc ça permettrait d'augmenter les difficultés dans les parcours qui existent actuellement dans les drones de racing. Et en rajoutant cette nouvelle capacité, on pourrait avoir des parcours encore plus challenge, si je puis dire.
Oui, des courses spectaculaires. Pour revenir un petit peu sur les oiseaux du début, est-ce qu'il y a des domaines, si on parle de bio-inspiration, pour lesquels les oiseaux sont encore bien au-dessus et qui vous donnent envie d'essayer des choses ?
Ah oui, alors les oiseaux sont capables de prouesses absolument fantastiques, hein. Les insectes aussi, bien sûr, hein. On s'intéresse aussi beaucoup aux insectes, mais les oiseaux sont capables, oui, d'ailleurs ce qu'on voit des oiseaux qui sont capables de naviguer dans une forêt très dense, telle que la BBC l'a montré, ça pour l'instant on en est encore très loin, et on aimerait vouloir avoir ce type de robot aérien très agile, capable comme ça de changer d'envergure de manière très dynamique, plusieurs fois, pour naviguer de manière très sûre aussi, et ça c'est quelque chose pour l'instant qu'on est encore loin d'atteindre. Mais bon, on y travail. Mais les oiseaux sont encore capables de multi-prouesses, oui, avec des manœuvres aussi de piquer, ils sont capables de freiner très vite aussi, enfin c'est très très spectaculaire. Ouais.
Merci en tout cas, on salue aussi Valentin Rivière qui a votre thésard et qui a beaucoup travaillé sur le projet. Petite dernière question, est-ce qu'il y a une commercialisation qui est prévue ou un usage dans l'industrie pour bientôt, rapidement ?
Alors, juste, je remercie absolument Valentin Rivière qui a fait un travail remarquable. Et puis, donc, le niveau commercialisation, il n'y en a pas pour l'instant, mais on espère donner des nouvelles idées aux constructeurs de drones pour peut-être avoir des drones qui vont changer d'envergure, des drones du commerce, pourquoi pas, oui.
Je pense que vous devriez avoir des clients dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, même certainement, Stéphane Viollet. Merci beaucoup. Vous travaillez à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille. Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'origine du dégoût pourrait venir de nos ancêtres les singes. Selon une nouvelle étude japonaise, il est important pour les bonobos d'avoir accès à des sources de nourriture propres, à l'écart des excréments, du sol ou des mauvaises odeurs. Loin d'être un sens de la luxure, le dégoût serait un système adaptatif qui a évolué afin de protéger les primates contre les parasites et divers agents pathogènes. Existe-t-il une raison logique aux expériences spirituelles, aux sentiments de sérénité hors du commun? Eh bien, tous ces phénomènes proviendraient en réalité du cerveau. Après avoir réalisé des tests sur une trentaine d'étudiants en bonne santé, une équipe italienne a identifié une région du cortex pariétal qui semble être impliquée dans ces expériences transcendantales. Les scientifiques continuent leurs recherches et espèrent à terme mieux comprendre les mécanismes neurologiques impliqués dans la santé mentale. Et puis une journée sur Terre n'a pas toujours duré 24 heures. Il y a 1,4 milliard d'années, elle n'était que de 19 heures. Ce phénomène nouveau découvert par les géophysiciens de l'Université de Columbia s'explique par la proximité de notre planète avec la Lune. Plus elle est proche, plus la Terre tourne rapidement. Et il y a 1,4 milliard d'années, la Lune était plus proche de nous de 40 000 kilomètres. Dossier consacré à la schizophrénie dans un instant.
Je t'écris, c'est moi. Il est tôt encore, j'ai rêvé si fort. Le papier sous mes doigts est dur comme ton corps. Je sais, j'ai tort, j'ai tort. J'ai dessiné ton nom et ton adresse. Cette image, je la trouve jolie, peut-être un peu sage, à vrai dire, sans rougir, je n'ai rien à te dire, je veux juste t'écrire, t'écrire. Je dessinais ton nom et ton adresse. Ça fait comme une promesse. Dieu, qu'elle est pas mal, la petite carte postale qui fait du mal. J'aimerais te parler du sable adorable, du vent qui dort sur les coquillages d'or. J'aimerais bien maligne, je pense à ma faute qui cligne. Je t'adore, je t'adore, je t'écris. C'est moi. Oh, c'est dur encore. Je t'aime si fort. Le papier sous mes doigts. Encore et encore. Je sais, je t'adore.
La carte postale, celle de Juliette Armanet.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard
sur France Inter.
Avec un dossier ce mercredi consacré donc à la schizophrénie, pour mieux comprendre cette maladie qui fait souvent d'ailleurs l'objet de stéréotypes, souvent également mal connus, et pour en parler, répondre à toutes vos questions. Raphaël Gaillard, vous êtes psychiatre et chef de pôle à l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes aussi le président de la fondation Pierre Deniker qui s'occupe de recherche et de prévention en santé mentale. David Gourion, vous êtes aussi psychiatre et auteur de cet ouvrage La fragilité psychique des jeunes adultes, hein, qui était sorti en 2015 chez Odile Jacob. Et puis Fabienne Blin, vous êtes membre de l'association Promesses et porte-parole du collectif Schizophrénie et vous êtes mère d'un enfant atteint de cette maladie. Les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». 1% donc de la population mondiale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Raphaël Gaillard, 600 000 personnes en France schizophrènes. C'est un chiffre important pour ceux qui connaissent mal la maladie, qui peut surprendre aussi. C'est-à-dire que presque tous autour de nous, nous avons potentiellement quelqu'un de schizophrène.
Oui, c'est exactement ça. Une maladie extrêmement fréquente, 1% de la population générale. Donc à peu près toutes les familles, ou presque, ou en tout cas indirectement, sont concernées. Mmh. Et pour autant, c'est une maladie dont on ne parle pas, en tout cas pas à la hauteur de cette fréquence, qui veut dire que manifestement, elle fait encore l'objet d'un tabou.
Ouais. David Gourion, vous êtes d'accord là-dessus? C'est encore quelque chose de caché et de presque honteux, la schizophrénie?
Je vais raconter une petite histoire un peu triste qui est arrivée récemment. Je vois une jeune fille, jeune patiente, schizophrène, qui va bien, qui est parfaitement équilibrée avec son traitement, qui a une vie, j'ai envie de dire, normale, qui travaille, etc., et qui m'avait annoncé le fait qu'elle avait un petit ami. Elle m'avait demandé conseil en me disant « Est-ce que vous pensez que je dois lui dire que je souffre de schizophrénie ?» Je lui avais dit « Je pense que dans une relation qui dure un peu, quand même mieux de le dire. » Et la dernière fois que je l'ai vue, il y a une quinzaine de jours, elle me dit « Je tiens à vous dire, il m'a quitté. » C'est-à-dire que on en est encore là. Dire à quelqu'un « Bon, j'ai un diabète, etc. », ça ne changera pas grand-chose. Dire « J'ai une schizophrénie », même si c'est complètement équilibré, même si j'ai une vie normale, ça reste quelque chose d'encore stigmatisé. Ça illustre bien le tabou et c'est très bien qu'on en parle. Ouais. Aujourd'hui, donc merci de nous recevoir.
Fabienne Blin, c'est une maladie qui fait peur aussi, hein, certainement.
Alors oui, c'est une maladie qui fait peur, et c'est surtout une maladie qui est mal connue, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que quand on parle de schizophrénie, de toute façon, il faut commencer par expliquer tout ce que ça n'est pas. Parce que finalement, ce n'est pas une maladie que les gens ne connaissent pas, c'est une maladie sur laquelle les gens ont vraiment un certain nombre de croyances.
Qu'est-ce que ça n'est pas, justement? On peut y aller tout de suite.
Alors, ce que ça n'est pas, c'est un dédoublement de personnalité.
Alors voilà, premier cliché, finalement, autour de la schizophrénie.
Oui, c'est un cliché, et en même temps, il est aussi issu de l'étymologie du mot, qui peut être mal interprété, mais aussi d'une validation dans le dictionnaire officiel de la langue française d'un sens métaphorique du mot dans le sens d'incohérence mentale, et si bien que ça, ça brouille la vision de la pathologie, et totalement, parce que double personnalité dans l'imaginaire, c'est associé à psychose, à Anthony Perkins. Donc voilà, donc effectivement, on n'a pas tellement envie de dire qu'on a une maladie qui peut être reçue dans la population comme étant une maladie comme celle d'Anthony Perkins dans Psychose. Donc, et ça n'a rien à voir. Donc en fait, tout le problème vient de là, justement. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que ça n'est pas d'autre, alors, finalement, la schizophrénie, quand vous faites la liste des lieux communs
Ce n'est pas la violence. Oui. Parce que c'est associé, effectivement. Alors, c'est pas le double. C'est pas non plus l'incapacité à s'insérer socialement. Donc le docteur Gourion vient de parler d'une jeune fille qui est tout à fait équilibrée. Donc, il y a quantité de gens qui vivent avec des maladies chroniques, autres maladies, et bon, qui gèrent leur maladie et qui ont une vie normale, ou en tout cas suffisamment insérée. Pour la schizophrénie, ces personnes-là, elles ne se font pas connaître. Elles se cachent parce que, justement, elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont malades. Donc, nous, on essaye de trouver des porte-paroles et on en a un certain nombre qui arrivent à témoigner, mais c'est très difficile de faire un coming out, en fait, quand on est schizophrène et que son entourage ne le sait pas nécessairement.
D'où, en ce moment, d'ailleurs, Raphaël Gaillard, une campagne d'information, on va dire, aussi, auprès du grand public. Hein.
Oui, puisque cette maladie est manifestement mal connue, peu connue ou mal connue, avec tous les stéréotypes qu'on a évoqués, nous avons décidé, avec la Fondation Deniker, de lancer une campagne grand public de communication sur cette maladie, et en quelque sorte de rendre visible, de rendre perceptible les symptômes au travers d'un film d'une minute qui décrit un jeune homme, Alexis, 20 ans.
Avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux, ce qui donne très bien justement le sentiment de ce qui peut se passer dans la tête de ces personnes.
Hein. Alors c'est une excellente idée de l'agence Publicis qui a mené cette campagne pour nous, avec l'idée qu'on puisse faire des allers-retours entre la vision objective et la vision subjective. Et donc on voit ce jeune garçon, Alexis, qui joue au foot, est avec sa petite copine au foot, et,
au restaurant.
Et puis qui, par moment, a l'air de décrocher un peu. Et à ce moment-là, on voit en vision subjective qu'il est parasité par des perceptions qui viennent troubler sa lecture du moment.
Et donc, c'est important de communiquer et de faire cette campagne en ce moment.
Alors, c'est essentiel, puis c'est aussi une façon de rebondir sur l'un des stéréotypes qu'on a évoqué, celui de la violence. Mmh. Les patients souffrant de schizophrénie ne sont pas violents. Il y a une vraie violence, c'est le fait de souffrir de cette maladie. Et c'est ça que nous avons voulu montrer. La violence, c'est d'être victime de cette maladie, d'en souffrir. Le vivre au travers d'Alexis, dans ses propres yeux, dans ce casque de réalité virtuelle, pour nous, c'était une très bonne façon de se mettre
à sa place,
place et de ressentir ce qu'il traverse.
Ouais. Alors justement, on va écouter un enregistrement qui a été réalisé, semble-t-il, par une équipe britannique pour imaginer au moment justement d'hallucination ce que pouvait ressentir un schizophrène. On va écouter ces voix et vous allez les commenter avec nous.
So stupid. Look at you. Stupid.
Voilà, David Gorion, on peut en dire quelques mots ?
Oui, pour relayer ce que disait Raphaël Gaillard, d'ailleurs le spot, pour ceux qui veulent le voir, est sur le site de la Fondation de Nicaire et sur le site de France Inter. L'idée, c'est de rendre compte de cette distorsion de perception de la réalité. En fait, la réalité n'existe pas, notre cerveau la recrée en permanence. On intègre énormément de sensations qui viennent de nos sens et de nos compréhensions. Et nous avons des filtres qui essayent de traiter toute cette information en temps réel pour nous donner un sentiment, une illusion de réalité et une illusion de familiarité de cette réalité. Je comprends ce qui se passe. Pourtant, je vis tout ça avec un décalage dans le temps, puisque le temps que je réalise ce qui se passe, ce temps est déjà passé. Mais il faut bien se rendre compte qu'en arrière-plan, il y a une formidable machinerie d'une puissance incroyable qui est notre cerveau, avec des cellules, des neurones qui sont un peu comme des... Il fallait prendre une image triviale, des câbles qui communiquent entre eux. Et s'il y a des erreurs, des mauvaises connexions, des erreurs de câblage, on en parlera sans doute tout à l'heure, qui sont notamment à l'adolescence, notamment parfois sous l'influence du cannabis, ces perceptions, cette façon qu'a notre cerveau de recréer la réalité, va être empreinte d'anomalies, d'étrangetés.
Ouais.
Et ce sont ces anomalies et ces étrangetés qui vont créer l'angoisse et ce sentiment de distance vis-à-vis du monde.
Et il y a un facteur neurobiologique extrêmement important dont on va parler avec vous tout à l'heure, parce que ça n'est pas qu'une maladie psychiatrique, mais il y a effectivement des fondements biologiques autour. Fabienne Blin, est-ce que justement un schizophrène arrive à décrire ce qu'il ressent, ce qu'il peut entendre, comme ce qu'on vient de passer là sur l'antenne il y a un instant ?
Alors évidemment, une personne qui est stabilisée peut tout à fait décrire ses symptômes. Et de toute façon, il faut aussi sortir de l'idée qu'une personne qui en proie à des hallucinations et des délires est perpétuellement en train de délirer et n'a pas de connexion du tout avec la réalité. C'est beaucoup plus subtil que ça.
C'est plutôt des moments de décrochage, il faut l'envisager plutôt comme ça.
Oui, bah, c'est vraiment dans les cas extrêmes qu'une personne est totalement envahie. Mais enfin, en général, il y a des crises et puis elles redescendent. Il y a toujours moyen de trouver un apaisement. Mais ce sur quoi je voudrais insister, parce qu'au-delà de la description, c'est l'extrême souffrance que créent ces symptômes chez les personnes. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a assez peu d'empathie, généralement. Enfin, la schizophrénie n'est pas une maladie qui attire l'empathie, comme d'ailleurs d'autres maladies psychiques, alors que c'est une maladie qui entraîne une très grande souffrance et qui est souvent très méconnue, très ignorée. Et qui est, c'est vraiment plus que la double peine pour les malades. Ils subissent la maladie, ils subissent la non-reconnaissance de leur souffrance. Et le manque d'empathie et de la société en général. Ouais. En fait.
D'autant plus, j'imagine, s'il y a difficulté à dire qu'on est atteint de cette maladie. J'imagine que c'est beaucoup plus compliqué encore.
Bah, les personnes, justement, comme ça, les psychiatres peuvent l'expliquer davantage, mais comme il y a justement un défaut de perception de la réalité, la personne ne perçoit pas complètement qu'elle est malade. Elle sent qu'elle souffre et qu'elle ne va pas bien, mais elle ne va pas pouvoir exprimer précisément qu'elle décroche de la réalité, justement. C'est bien la maladie.
David Gorion.
Si je peux me permettre de rebondir, je trouve ça très, très intéressant. Ce que vous venez de dire, ça déclenche pas beaucoup d'empathie. En même temps, ce sont des personnes qui sont souvent extrêmement touchantes dans leur fragilité, justement. Moi, j'ai choisi la psychiatrie, j'étais pas forcément parti pour faire psychiatrie suite au contact avec les patients schizophrènes, parce que je trouvais à la fois que ces personnes étaient extrêmement touchantes et dans leur vie, dans leur souffrance, aussi extrêmement énigmatique. Et en médecine, on a envie de comprendre, on a envie de craquer le code de l'énigme. Et ça, Raphaël et l'équipe de recherche qu'il dirige s'y emploie avec la Fondation Denikar et beaucoup d'autres. Mais il y a quand même un caractère extrêmement touchant. Et je crois que c'est très important de sortir de cette idée de patient qui fait peur, qui est dangereux, qui est méchant, etc. C'est pas du tout ça. Ce sont vraiment des personnes avec qui souvent on prend d'ailleurs beaucoup de plaisir à travailler, avec qui on peut rire, avec qui on peut échanger sur des choses très profondes. Il faut rappeler que ça n'est pas une maladie qui touche l'intelligence. On peut avoir personne excessivement intelligente. Et donc, ça ne génère pas beaucoup d'empathie, mais en réalité, si.
Il y a une question de Sabine sur franceinter.fr. Raphaël Gaillard, elle nous dit ceci. Un de mes enfants a développé des symptômes de schizophrénie suite à la consommation de cannabis. Je voudrais savoir ce qu'est une schizophrénie affective, car par la suite, il a été diagnostiqué ainsi. D'abord, l'aspect cannabis, hein, c'est un facteur de risque supplémentaire.
Alors, il y a deux questions, effectivement. La première concerne le cannabis. Ce qui est très bien identifié aujourd'hui, c'est que c'est un facteur précipitant de la maladie. Ouais. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui interroge beaucoup en matière de politique publique. Pour beaucoup, le cannabis, manifestement, est anodin, à peu de conséquences. Mais ce que nous savons, nous, psychiatres, c'est que certains patients, certaines personnes fragiles, vulnérables, et sans qu'on le sache avant, passent la frontière de la maladie au gré de cette consommation de cannabis.
Mais est-ce que c'est des personnes qui avaient déjà des prédispositions ou pas ?
Probablement, mais on peut aussi dire que sans cette consommation de cannabis, ils ne seraient pas malades. Et donc ça, c'est un point essentiel. On ne l'a pas dit d'ailleurs encore. La maladie, la schizophrénie, éclot entre 15 et 30 ans. C'est-à-dire un moment où notre cerveau change massivement. Il évolue énormément entre 15 et 30 ans. Et cette période-là est une période de grande fragilité. Ajouter un produit toxique, ce qui est le cas du cannabis, sur ce cerveau en mutation, c'est risquer de le faire dérailler. Et de fait, nous devons avoir bien conscience que la consommation de cannabis, et ce d'autant qu'elle est précoce, peut précipiter dans la maladie des personnes qui avaient peut-être une vulnérabilité, mais dont on peut légitimement penser qu'ils ne seraient pas malades sans cette consommation de cannabis.
Et la schizophrénie affective, alors, pour la deuxième partie de la question?
Alors, ça c'est une entité clinique, une maladie bien identifiée, qui est une sorte de conjonction entre le trouble bipolaire et la schizophrénie. Et donc, ça associe des symptômes de la schizophrénie et des symptômes du trouble bipolaire, c'est-à-dire des oscillations de l'humeur, de façon à la fois liée et indépendante. Donc, c'est une entité nosographique qui est dans le spectre de la maladie schizophrénie, mais qui est plus spécifique.
Allez, beaucoup de questions pour vous sur le site de La Tête au Carré. Je vous les transmets dans un instant.
I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me. So I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. You deserve better, it's true. I need a little time out from me.
need a little time. C'était Courtney Barnett sur France Inter.
La tête au carré.
Mais qu'est-ce qu'il a ?
John est atteint de schizophrénie. En général, les schizophrènes sont aussi paranoïaques.
Mais son travail, il s'occupe de conspirations, alors...
Oui, je sais. Dans le monde de John, ce comportement est accepté, encouragé. En conséquence, sa maladie a pu passer inaperçue beaucoup plus longtemps que d'habitude.
Combien de temps ?
Peut-être bien depuis la fin de ses études. C'est du moins à cette époque que ses hallucinations semblent avoir commencé.
Quelles hallucinations ?
Au moins une, celle qui revient le plus souvent. Un copain de chambre imaginaire, Charles Herman.
Charles n'a rien d'imaginaire. C'est l'un de ses meilleurs amis depuis Princeton.
Avez-vous fait sa connaissance ? Est-il venu dîner ?
Je sais qu'il vient quelquefois en ville pour des conférences.
Et était-il au mariage ?
Il enseignait.
Avez-vous vu une photo de cet homme ? Lui avez-vous parlé au téléphone ?
Tout ça est grotesque.
J'ai téléphoné à Princeton. Et selon les fichiers de l'époque, John vivait seul. Alors, est-il plus vraisemblable que votre mari, un mathématicien sans formation militaire, soit un espion américain poursuivi par les Russes ?
C'est vous qui dites qu'il est malade.
Ou bien, qu'il ait perdu le sens des réalités.
Voilà la vie du mathématicien John Fornash avec ce film « Un homme d'exception » de Ron Howard, sorti en 2001, pour parler donc de la schizophrénie, avec mes invités psychiatres Raphaël Gaillard, David Gourion et Fabienne Blin pour le collectif Schizophrénie, vos messages nombreux sur franceinter.fr. Est-ce qu'on peut parler justement des premiers symptômes, David Gourion ? On entendait dans l'extrait justement que pendant très longtemps, la maladie était passée inaperçue. C'est ce qui se passe la plupart du temps ?
Oui, absolument, parce que les premiers symptômes, vous le disiez tout à l'heure, madame, sont inspécifiques. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des difficultés scolaires, ça peut être un sentiment un peu d'étrangeté de l'ambiance, ça peut être le sentiment que les gens, les autres enfants, les autres adolescents sont hostiles et ne pas avoir envie de les inviter. Donc ça peut être extrêmement discret, ces formes discrètes. Nous avons nous-mêmes une difficulté qui est que nous n'avons pas encore d'examens complémentaires qui permettent, comme dans d'autres disciplines, en cardiologie, on fait un électrocardiogramme, qui permettent, je dis encore parce qu'on va l'avoir bientôt, les progrès sont énormes, on parlera peut-être de l'imagerie cérébrale, du machine learning qui aujourd'hui permet justement de repérer et de prédire avec une bonne fidélité, mais en tout cas ces signes peuvent être extrêmement discrets. Et à l'inverse, et donc là on peut perdre du temps dans le diagnostic, le message c'est un adolescent qui va mal depuis plusieurs mois, qui semble, parce que souvent le diagnostic par défaut c'est dépression, c'est un diagnostic un peu facile, ou crise d'adolescent, crise d'adolescent, ce qui veut strictement rien dire. J'ai envie de donner ce conseil, un adolescent qui va vraiment mal depuis plusieurs mois, qui a été catégorisé déprimé, qui n'a pas répondu à des antidépresseurs, je pense qu'il est absolument fondamental qu'il voie un psychiatre. Je sais que c'est pas toujours simple l'accès au psychiatre, mais je pense que c'est très très important qu'il soit vu par un psychiatre. Il y a des centres experts aussi de dépistage précoce. Donc aujourd'hui, des outils secrets, de nouveaux outils secrets, il y en a certains, il y en a d'autres, pour améliorer le dépistage dont on disait tout à l'heure qu'il est fondamental pour maintenir l'insertion.
Ouais, Fabienne Blin, il y a ce problème de l'errance diagnostique hein, pour ces enfants, souvent, puisqu'on le disait, ça démarre... À l'adolescence, la plupart du temps.
Oui, l'errance, elle est très longue parce que malheureusement, quand on voit un psychiatre, on n'a pas nécessairement le bon psychiatre. Et c'est vrai que peu de praticiens, finalement, sont amenés à avoir beaucoup de cas de schizophrénie dans leur carrière. Donc finalement, pour repérer justement les petits signes qui forment le tableau d'une potentiel de schizophrénie, faut quand même avoir une certaine expérience et en avoir vu un certain nombre avant, ce qui n'est pas le cas de la plupart des médecins. Beaucoup de familles qui, elles, sont inquiètes parce qu'elles ont bien identifié qu'il y avait un problème, vont aller voir un généraliste, un psychologue, un psychiatre, et puis les choses traînent et jusqu'à ce qu'il y ait une aggravation des symptômes et ce qu'on appelle une décompensation, c'est-à-dire des délires et une hospitalisation.
Eux-mêmes, en fait. Raphaël Gaillard, ne reconnaissent pas toujours les symptômes de la schizophrénie alors ?
Alors, je crois que la problématique réside essentiellement en amont de la consultation auprès d'un psychiatre. Comment passer de l'étrangeté d'un adolescent, on a parlé d'étrangeté, mais un adolescent c'est quand même étrange pour ses parents avant tout, à l'étrangeté de la maladie, quelque chose qui va au-delà. Quel recours à ce moment-là ? Je pense que les établissements scolaires jouent un rôle important. C'est une micro-société, il faut voir ce qui se passe en dehors de la maison. Il faut vraiment être en lien avec l'établissement scolaire. Je crois aussi que les médecins de premier recours, les médecins généralistes, les médecins de famille idéalement, s'il en existe encore, peuvent jouer un rôle clé puisqu'ils connaissent cet enfant et cette famille de longue date. Et puis, il y a un moment où le psychiatre doit être consulté. Alors, pendant un temps, parfois, effectivement, nous ne pouvons pas formellement poser le diagnostic parce que nous n'avons pas d'examen complémentaire biologique, oui, d'imagerie, d'électrocardiogramme, comme l'a évoqué David Gourion pour le cœur, qui nous permettent de dire, voilà, il y a cette anomalie et c'est cette maladie. On l'aura, je pense, dans quelques années, mais on ne l'a pas encore. Et donc, il faut un faisceau d'arguments qui permettent formellement de poser le diagnostic. Mais je crois que le point principal, celui du retard diagnostique, qui est un retard de plusieurs années entre les symptômes...
C'est très grave quand même pour cette maladie.
Et le diagnostic, il tient au fait qu'on ne consulte pas assez tôt, assez vite, et qu'on tolère finalement une situation qui est une situation qui couve et qui à un moment explose. Je crois que c'est très important parce que toute cette période, c'est des périodes clés de construction de l'individu, celui d'un jeune adulte, celui d'un adolescent. Et ce que nous savons d'ailleurs, c'est que le pronostic de la maladie est majoritairement influencé par cette durée d'absence de traitement.
Ouais. D'où effectivement ce problème du retard sur la perte de temps, et une fois qu'il a été réellement diagnostiqué, c'est quasiment une course contre la montre après pour essayer d'avancer vers un traitement.
Absolument. Absolument. D'abord, il y a une conséquence neurobiologique de la maladie, une toxicité. L'épisode est toxique, on a pu montrer qu'il y a des lésions cellulaires, donc laisser évoluer la maladie entraîne des lésions cérébrales et un déficit cognitif progressif. Et puis d'autre part, en effet, avoir été en décrochage pendant 6 mois, ça peut se rattraper. Avoir été en décrochage pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avoir éventuellement déliré, penser qu'on était en relation avec Jésus pendant 2 ans, c'est très difficile, même si ensuite on arrive à éteindre les éléments délirants, de revenir dans une réalité et de reprendre le fil. Donc c'est une vraie course contre la montre. Et 10 ans, voilà, on peut pas imaginer, vous imaginez un cancer, on dirait, ou le diabète, ou l'asthme, on dirait, on met 10 ans entre les premiers
inacceptable,
signes.
Inacceptable, évidemment. Ouais. Fabienne Blain.
Oui, non, bien sûr, effectivement, faut essayer de raccourcir ce délai avant la consultation, enfin, qui permettra d'une prise en charge, en tout cas, si ce n'est un diagnostic. Je voulais ajouter que, enfin, bon, malheureusement, les adolescents et les jeunes voient pas beaucoup le généraliste. Enfin, la notion de médecin généraliste pour un jeune, enfin, c'est moins pertinent quand même que pour des personnes âgées qui vont bien connaître, voilà. Donc, ceux qui sont vraiment en première ligne, c'est l'entourage, ce sont les familles, et que c'est vraiment auprès de tout l'entourage des jeunes. Donc, c'est pas ses copains, ses frères et sœurs, qu'il faudrait qu'il y ait une information beaucoup plus importante. Et là, enfin, on peut que se féliciter que la Fondation de Nicaire fasse une campagne, parce que, enfin, on est quand même étonné, vu la prévalence de la maladie, qu'il n'y ait jamais eu de campagne d'information publique sur la schizophrénie. Ça fait partie des sujets sur lesquels on pourrait s'attendre à ce que les autorités sanitaires fassent de l'information. Et en fait, non, c'est un sujet qui n'est pas jugé prioritaire. Et elle est là, la cause du retard de diagnostic, c'est que les gens ne sont pas informés. Moi, à titre personnel, j'ai pas imaginé une seconde que mon fils pouvait être atteint de schizophrénie. Pas une seconde.
À quel âge il a été diagnostiqué, finalement ?
Après 20 ans, mais rétrospectivement, oui, les premiers signes étaient plusieurs années avant, dès le lycée. Mais ça ne m'a pas effleuré. C'est pas une question de tabou, c'est vraiment une question de méconnaissance totale, parce que je n'avais jamais entendu parler de cette maladie, si ce n'est à travers tous les fantasmes qui sont, que tout le monde connaît. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur les familles dès le départ, c'est-à-dire en termes de prévention, en termes d'information, et après, pour la prise en charge également.
Catherine nous dit, ma fille vient d'être diagnostiquée borderline suite à plus d'un an de crise et dernièrement plusieurs TS. Qu'est-ce que c'est, pardon, TS ?
Tentative de suicide.
Voilà. Par ailleurs, leur père apparemment est suivi pour bipolarité. Il y a un traumatisme familial important, mais ça n'explique pas tout. Quelle est la part de l'hérédité, demande-t-elle, Raphaël Gaillard ?
Dans la maladie schizophrénie, puisque là, dans ce témoignage, on parle de beaucoup de maladies, il y a clairement une partie d'héritabilité, d'hérédité. On peut en parler un peu plus tard, mais on peut l'observer, par exemple, en voyant quelle est la trajectoire de jumeaux pour ce diagnostic de schizophrénie. Mais d'emblée, je voudrais dire que il faut se méfier de la question de l'hérédité, parce qu'elle est aussi très vite stigmatisante. Elle est très vite, elle amène très vite à considérer que c'est ceux qui ont ces gènes-là qui évolueront vers cette maladie. Ça les concerne et pas nous. Alors que la réalité, je le redis, de cette maladie, c'est que de façon très transversale dans toutes les sociétés, elle affecte 1% de la population générale.
David Gourion.
Oui. En effet, je voudrais rajouter le mot de vulnérabilité. C'est-à-dire que ce qu'on est en train d'identifier, ce ne sont pas des gènes pour la maladie, ce sont des gènes de vulnérabilité pour la maladie, ce qui est très différent.
De prédisposition, c'est ça ?
Exactement. Ouais. On peut avoir une vulnérabilité, avoir une sensibilité, avoir peut-être de minimes anomalies de perception, et ça en population générale, si vous demandez aux gens s'ils ont déjà entendu un peu quelque chose, etc., c'est très fréquent. Ouais. Par contre, la transition entre cette vulnérabilité, le passage de cette vulnérabilité vers la maladie invalidante, nécessite d'autres facteurs qui sont des facteurs environnementaux. Autrement dit, il n'y a pas d'hérédité génétique, c'est pas on a les gènes, c'est comme la mucoviscidose, ça veut dire qu'on aura la maladie. D'ailleurs, les études de jumeaux, Raphaël Gaillard les citait, un jumeau sur deux, pour les vrais jumeaux, ne partagera pas le sort commun de développer la maladie. Ça veut dire qu'à patrimoine génétique quasiment identique, il a 50% de chances de ne pas le devenir. Donc il y a des facteurs environnementaux de risque, mais aussi des facteurs environnementaux de protection. Et c'est là aussi beaucoup qu'on attend la recherche pour essayer de voir quels sont ces facteurs et comment influencer, comment faire de la médecine préventive. Pardon.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour de la schizophrénie et toujours vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr. Song for a Jedi, Dionysos.
Je suis content de ma vie, malgré que j'ai eu une vie pas ordinaire, différente des gens qui ont des autos, des enfants, tout ça. J'ai 86 ans. J'ai une conformation de la tête pas normale, ça vient de mon père. Étant jeune, je ne parlais pas. Je suis content parce que je suis différent. Remarquez, tout le monde est différent les uns des autres. Mais moi, je suis un peu trop différent. Mais j'y peux rien. J'étais une formation de comptable. Et puis, d'un seul coup, je suis tombé malade et puis j'étais à l'hôpital. À 29 ans, en 54, j'étais à l'hôpital, puis depuis, je suis en psychiatrie. J'ai patiné à sous-côte, évidemment. J'ai pas eu beaucoup de rendement, voyez-vous. J'ai coûté très cher, mais pour moi, c'est terrible, la schizophrénie, parce que c'est beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance.
Voilà un témoignage touchant de ce monsieur de 86 ans. En tout cas, ses 86 ans, il les avait en 2011 au moment de ce témoignage. Jacques, donc au centre Antonin Artaud de Reims. Raphaël Gaillard, David Gourion et Fabienne Blin sont avec moi donc cet après-midi pour évoquer la schizophrénie. Un commentaire, Raphaël Gaillard, sur le témoignage de ce monsieur âgé.
Témoignage touchant d'abord, et puis qui m'amène à une remarque. Ce patient évoque la causalité possible du comportement de son père dans la maladie. Je crois qu'il faut tordre le cou à cette stigmatisation des proches. On stigmatise les patients, on stigmatise les proches. Si on dit que c'est 600 000 personnes en France et schizophrénie, ça fait 2-3 millions de personnes qui seraient stigmatisées ainsi. C'est absolument invraisemblable.
Alors les causes de la maladie, mais parlons-en parce que c'est une question d'auditeur qui est revenue.
Les causes, je crois qu'il faut dire aujourd'hui que ce ne sont pas des causes psychologiques et il faut tordre le cou à l'idée que la mère serait toxique, sujet dont on débattra au congrès de l'encéphale prochainement. C'est pas ça, c'est une maladie qui est incarnée, qui correspond à des anomalies biologiques qu'on identifie dans le cerveau, qui portent notre pensée.
Donc c'est avant tout une maladie neurobiologique, la schizophrénie ?
C'est une maladie incarnée, neurobiologique, affectant cet organe incroyable qu'est le cerveau. Et c'est comme ça qu'il faut la concevoir, la penser et la prendre en charge.
Pourtant, quand on regarde les définitions, on voit maladie psychiatrique avant tout, David Gourion, non ?
Oui, on voit maladie psychiatrique avant tout parce que vous savez les anomalies dont on parle là sont des anomalies extrêmement subtiles, donc on ne les voit pas comme on pourrait voir des plaques de sclérose en plaques ou un accident vasculaire cérébral. C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus spécifique. Mais je reviens sur ce jeune homme de 86 ans que nous venons d'entendre. C'est une trajectoire assez terrible et je me dis. Il aurait débuté sa maladie aujourd'hui, puisqu'il dit qu'il a été hospitalisé en 1958. Ouais. Je voudrais quand même que les auditeurs, ceux qui souffrent ou pas de la maladie ou qui ont un proche, qu'il y ait quand même un message d'espoir, c'est que des progrès considérables ont été faits. On a parlé des outils du diagnostic précoce, on a parlé des progrès des neurosciences, mais les nouvelles molécules, les nouvelles stratégies thérapeutiques, et c'est pas qu'une histoire de médicaments, mais aussi de stratégies intégrées de soins, le travail avec les familles, font aujourd'hui que quelqu'un qui débute la maladie, alors les formes sont très hétérogènes, on peut jamais parler de façon générale, mais qui est diagnostiqué très tôt, pris en charge très tôt, peut avoir un pronostic qui va faire en sorte qu'il ne passera pas loin de là, sa vie comme ce monsieur, à l'hôpital, et que peut-être même il aura très vite une trajectoire qui sera une trajectoire normalisée. Donc je voudrais aussi vraiment qu'il y ait ce message d'espoir. On parle d'une maladie qui est une maladie dure, mais les avancées sont considérables.
Fabienne Blin, j'aimerais avoir votre avis, évidemment, en tant que porte-parole du collectif Schizophrénie, et puis aussi en tant que maman d'un enfant schizophrène. Vous êtes d'accord avec les propos de David Gourion, qui laisse entendre finalement qu'on vit assez normalement aujourd'hui avec la maladie ?
Tout à fait. Enfin, en mettant une prise en charge, enfin, autour de la personne, une prise en charge adaptée, enfin, les patients se rétablissent, en fait, dans la majorité des cas, et ça faut le dire. Et justement, enfin, si vous allez sur le site du collectif Schizophrénie, vous verrez quantité de témoignages de personnes qui sont schizophrènes et bibliothécaires, libraires, ingénieurs du son, professeurs d'université, travaillant dans l'immobilier, etc. Enfin, et qui ont, pour certains, des enfants qui sont mariés, enfin, donc, qui n'ont pas une vie très différente de la majorité des gens. Après, effectivement, tout ça, ça demande quand même, pour avoir les meilleures chances de se rétablir, cela demande une prise en charge adaptée qui a, bon, un volet médicamenteux, effectivement, enfin, en tout cas pour stabiliser, etc., mais aussi un accompagnement psychosocial très important. Et qui est quand même rarement proposé de façon satisfaisante en France.
Alors justement, l'accompagnement psychosocial, il y a des initiatives et une expérience à l'étranger qui est aussi intéressante, celle du Québec en particulier. On va écouter là aussi l'extrait d'un documentaire sur Profamille au sein de l'hôpital Sainte-Anne et c'était tourné en 2015.
Nous sommes à l'hôpital Sainte-Anne. Ce soir-là, des dizaines de personnes se pressent.
C'est les premières inscriptions ?
Toutes ont dans leur famille un enfant, un conjoint atteint de schizophrénie. Et toutes espèrent intégrer ProFamille, un programme d'éducation thérapeutique animé par des psychologues et des médecins. Nous retrouvons un des groupes ProFamille, encadré par la psychologue Dominique Villard.
Depuis le temps que je te dis, tu devrais savoir où mettre tes slips sales.
Depuis le temps que je te dis, tu devrais savoir. Mais c'est un reproche.
Mieux connaître la maladie et ses traitements. Travailler sur ses émotions comme la culpabilité. Et bien sûr, mieux communiquer avec son proche malade.
Ça a changé, on a renoué un contact. C'est vrai qu'on n'arrivait plus à se parler, faire la pratique des 4P, donc faire des petits compliments sur des petites choses qu'on voit. Ça, ça a bien marché. Poser des limites, pas se laisser envahir. Ça fait du bien, c'est vraiment, ça déculpabilise. Comme me dit souvent mon mari, il y a un avant et un après ProFamille.
Né au Québec à la fin des années 80, ProFamille a fait ses preuves. Les études montrent que les parents souffrent moins de dépression ou d'autres symptômes somatiques.
Voilà, ProFamille, un exemple donc d'éducation thérapeutique. Fabienne Blanc, on entendait parler des 4P là dans le sujet, ça veut dire quoi rapidement?
4P, ça, c'est les codes
québécois donnés.
C'est des félicités pour les petits progrès que fait la personne. Parce que généralement, quand une personne manifeste des symptômes, il fait pas grand chose, il se lève pas, il est démotivé, etc. Donc finalement, les parents peu formés vont lui reprocher.
C'est
alors
ce
qu'en fait,
là,
on reprocherait pas à quelqu'un qui est paraplégique de ne pas marcher. Mais en fait, là, on reproche à la personne de ne pas se bouger, etc. Et donc, justement, ProFamille, entre autres, c'est mieux comprendre la maladie, donc mieux comprendre les symptômes de la maladie, les difficultés qu'affronte son enfant. Et du coup, au lieu de lui reprocher et de lui dire des choses qui le stressent et ne l'aident pas, c'est de valoriser tous ses efforts et de tous les progrès qu'il peut faire. Et c'est faire ce qu'on appelle du renforcement positif, qui marche d'ailleurs aussi en management et dans toute une série de circonstances. Finalement, quand vous félicitez les gens, que vous les encouragez, vous les soutenez et ils arrivent mieux à s'en sortir.
Raphaël Gaillard, il y a une question de Anne qui demande s'il y a des médicaments antipsychotiques récents qui ne font pas prendre de poids. Ça fait partie des effets secondaires des médicaments liés à la schizophrénie?
Alors les médicaments antipsychotiques ont changé le visage de la psychiatrie, ont ouvert l'asile qui est devenu un hôpital avec des soins qui se déroulent le plus souvent en dehors de l'hôpital. D'ailleurs, on avait un témoignage débutant en 1956, l'invention du premier traitement c'est 1952, donc c'est juste avant. Depuis, on a fait beaucoup de progrès dans l'efficacité, surtout la tolérance de ces traitements qui ont beaucoup moins d'effets secondaires. Il en reste un pour certains patients, pas tous, un quart, un tiers, le risque de prendre du poids, surtout avec certains de ces traitements. Alors il y a des progrès, il y a des nouvelles molécules dont la tolérance est meilleure encore, qui sont en développement. Il y a encore beaucoup à faire, mais ça nous rappelle encore une chose, c'est que décidément cette maladie est une maladie organique, elle est liée à des anomalies biologiques et que c'est des médicaments qui viennent dans un premier temps réorganiser le cerveau de ce patient souffrant d'une schizophrénie et lui permettre tout le reste du déroulement de sa vie.
David Gorion, une question de Catherine qui dit, vous disiez tout à l'heure que les patients n'ont pas conscience de leur maladie, mais est-ce que ça n'est pas le cas de toutes les maladies psychiques, justement ?
Certains patients n'ont pas conscience, mais certains ont conscience, et c'est d'ailleurs notre travail aussi que de travailler sur la prise de conscience de la maladie. Mais plus généralement, je crois que c'est important aussi, par rapport aux gens qui nous écoutent, de leur dire, vous pouvez tous faire quelque chose à votre niveau. Si vous êtes adolescent et que dans votre classe un adolescent semble souffrir de cette maladie ou qu'il en souffre, dans la famille, si vous êtes employeur, chacun, je pense, doit travailler à tendre la main. D'ailleurs, les Français sont un peuple généreux. On est venu aussi parler de la Fondation de Pierre Denis Kerr et on fait un appel aux dons pour la recherche, pour déstigmatiser cette maladie qui est une maladie fréquente et vraiment pour lesquelles on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui.
On va terminer par ce message de Philippe. Il nous dit ceci. Non seulement il n'y a aucune empathie pour la schizophrénie, mais il n'y a aucune assistance de la part de la société tant qu'il n'y a pas atteinte à l'ordre public. C'est entièrement à l'entourage d'effectuer un véritable parcours du combat pour arriver à un premier diagnostic. Voilà, c'est souvent difficile, mais en tout cas, il y a des aides, il y a des clés, et il y a des collectifs comme Schizophrénie, et puis également l'association Promesse.
Bien sûr, et le programme ProFamille, qui est vraiment, qui est beaucoup trop confidentiel par rapport à ce qu'il apporte. C'est pas du tout normal que seuls 3% des familles aient pu bénéficier de ce programme en France.
On a mis les liens de toutes ces associations sur le site, évidemment, de La Tête au Carré. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui dans l'émission.
Merci.
Au revoir.